Mémoire d'une aveugle, 15e partie. Il répétait et faisait répéter une sorte de farce, indigne de Voltaire, et dont il devait nous donner le spectacle. Nous la retrouverons à Cirée. Les acteurs étaient passables, Voltaire excellent, et la belle Émilie se supportait, à cela près qu'on lui répétait tout le temps qu'elle était courte et grosse, ce qui formait un singulier contraste avec cette baguette longue et sèche. Elle tenait le rôle d'une fille appelée Mademoiselle de la Cochonnière. On me proposa celui de Barbe, sa gouvernante, je déclinai cet honneur. Un nommé Venture, que Madame Dumaine voulait toujours appeler Bonaventure, jouait Boursoufle. Or, comme il était très boursouflé lui-même, il nous montra la boursouflure trop au naturel et ne fut pas du tout plaisant. Le sujet étant forcé au dernier point, tout devait être comme le sujet. Un monsieur Paris, intendant de la duchesse d'Estrées, représenta en honnête homme le personnage d'un voleur aux petits pieds, nommé Mandrin. Les autres rôles étaient secondaires. Au total, comme farce, cela fut assez bien rendu. Mais je souffrais de le voir signé du grand nom de Voltaire. Il l'anoblit un peu par un proverbe qu'il jouait lui-même avec Madame Dutour, la barbe de Mademoiselle de la Cochonnière. On fut très content de la soirée, on rit passablement, on s'amusa comme on s'amusait à cette cour, en se moquant beaucoup les uns des autres. Les meilleures personnes entre celles qui se trouvaient là étaient la duchesse de Saint-Pierre et la duchesse d'Estrées. On les choyait fort. Des duchesses, à Sceaux, faisant la cour à Madame la duchesse Dumaine. On s'en gonflait. Cette malheureuse bâtardise avait fait tant d'aventures sous le règne précédent et au commencement de la régence. Le duc de Saint-Simon et autres parvenus étaient montés sur de si hautes échasses à propos de cette dignité que la cour de Sceaux leur faisait un pont de sourire pour les appeler. Le lendemain de la comédie, Voltaire et son Uranie nous quittèrent. Le duc de Richelieu voulait les voir avant de se rendre à Gênes. En partant, ils me racontèrent leur départ pour la Lorraine, où ils comptaient s'établir. « Nous renonçons au monde, madame. Nous allons nous fixer dans la solitude, pour nous livrer aux arts et à l'amitié. » Vous viendrez nous voir, n'est-ce pas ? Certainement, répondis-je, très curieuse de voir ce tête-à-tête et une maison instituée par ces deux créatures. Nous ne prions pas tout le monde, au moins. Nous sommes et nous serons fort difficiles. On nous suppliera pour y venir, n'en doutez pas. Je n'en doute point, et je vous remercie, madame. Quant à vous, monsieur de Voltaire, vous connaissez mon admiration pour vous. » Ils partirent de fort bonne heure. On ne les revit plus. Ce fut ensuite un concert de critiques sur leur compte, qui ne prit point de fin pendant 5 ou 6 jours. Madame Dumaine ne s'en pouvait taire. « Je passe tout cela à Voltaire. Il n'en peut rien, il n'en sait rien. C'est le fils d'un notaire, et nos façons lui sont inconnues. Mais Madame du Châtelet, Mademoiselle de Breteuil. Madame, repris-je, c'est absolument pour cela. Monsieur de Breteuil a pu apprendre à Mademoiselle sa fille les habitudes des intendants de province et de la magistrature de Paris. Pour celle de la cour, il les ignore. Il a au moins regardé la cour par la lucarne. Il a reçu, il a vu toute la vie la bonne compagnie, apparemment. Ne m'en parlez pas. Je ne digérerai jamais ces allures de bourgeoise déesse. L'esprit de Voltaire lui sert de parapluie. On n'a rien à en dire, je le répète. Il s'assoirait sur la table que je le lui passerai. Rien à elle. Jamais Madame Dumaine ne put accepter Madame du Châtelet. Du reste, il en était de même partout, et le plus grand esprit du siècle avait là un goût singulier. Le pire, suivant moi, c'est qu'elle était ridicule et ennuyeuse. Chapitre 64. Une fois Voltaire et sa divinité partis, nous reprîmes le train de vie habituel, c'est-à-dire force promenade, force chasse, force partie de plaisir. Le soir, le cavignol, et quelquefois les proverbes et la comédie. Toujours de l'esprit, des vers, des chansons, où Monsieur le duc d'Humaine excellait entre tous. J'aimais fort cette société, et je m'y plaisais infiniment. Madame de Staël se plaignait hautement de sa maîtresse. Elle assurait qu'on ne pouvait vivre avec elle, qu'elle s'en irait, et elle restait toujours. C'est que, malgré ses défauts bien connus, la duchesse avait une grâce, un charme et une manière de s'y prendre qui n'appartenaient qu'à elle. On la justifiait avant de pouvoir l'accuser. On lui cherchait des excuses, tant on désirait être bien avec elle. Je lui disais souvent, « Madame, si au lieu de passer votre temps à quereller Monsieur le duc d'Orléans, vous eussiez pu le voir sans obstacle, vous eussiez gouverné la France à vous deux. Il vous aurait adoré, il vivrait encore, et vous vous aimeriez toujours. » « Parce que nous ne nous serions jamais aimés, n'est-ce pas ?» Elle avait le cœur sec et la tête vide. Aussi ne fut-elle malheureuse que par la vanité et l'ambition déçue. Donnez à Monsieur Dumaine de véritables droits au trône. Que la princesse fût la première, qu'elle pût gouverner quelque chose et quelqu'un, elle n'eût plus formé de souhait. Il se passa à Annette une chose qui nous frappa. La pauvre duchesse d'Estrée glissa dans l'escalier. Elle se cogna la tête sur les marches, resta sans connaissance et fut saignée tout de suite. Elle soupa le soir, presque comme de coutume, et assura le lendemain qu'elle ne sentait rien du tout. 8 jours, 15 jours se passèrent dans un état à peu près satisfaisant. Tout à coup, elle se sentit un peu souffrante. Elle se fit servir chez elle le soir. Madame de Fervaques lui tint compagnie. Elles rirent beaucoup ensemble. Madame de Fervaques la quitta à minuit. La duchesse se coucha. À peine dans son lit, elle laissa tomber sa tête sur sa poitrine et râla. Ses femmes jetèrent des cris affreux, appelèrent toute la maison, et l'on y courut. Madame la duchesse d'Humaine, la première. Des soins empressés furent prodigués à l'agonisante. On envoya des courriers partout chercher des médecins, le nôtre avouant son insuffisance. Ils arrivèrent trop tard, elle n'était plus. Cette mort jeta l'épouvante pendant 2 jours en cette compagnie si gaie. On en fut comme pétrifié jusqu'à l'enterrement. Mais, aussitôt après, on n'y pensa plus. Je n'ai jamais vu un oubli si prompt. Madame de Staël en déraisonna longtemps. « Eh bien, ma reine, si je mourais, ce serait de même. On me regretterait peut-être un peu plus, je suis plus utile. Mais on ne le montrerait pas tant, je ne suis pas duchesse. » Quant à moi, je n'avais point de prétention à un attachement que je ne ressentais pas. Je revins à Sceaux avec Madame Dumaine. Nous y passâmes tout l'automne. Aux environs de Noël, nous fîmes des couplets. Ils étaient, je vous assure, fort spirituels. Je les avais tous. Mademoiselle de l'Espinasse me les a emportés, par mégarde peut-être, et je n'ai jamais pu les retrouver depuis. J'en suis fâchée, je les aurais cités ici. On se rassemblait vers 8 heures dans le salon de Sceaux. Il s'y trouvait une musique jouant les airs de Noël en vogue, sur lesquels chacun composait ses vers. On passait en revue les événements de la cour et ceux de la société. Pourvu que la crèche en fût le prétexte, on n'en demandait pas davantage. Monsieur de Saint-Aulaire et Monsieur Dumaine excellaient à ce jeu. Je n'y entendais pas grand-chose. Je n'ai jamais su couper ma pensée dans un couplet. Il m'en vient un assez joli de Monsieur le duc Dumaine, commençant une longue complainte sur Madame de Mailly et sur l'air « Ma voisine, es-tu fâchée ?»« Cette chanson sera mauvaise, voici pourquoi. C'est que, monsieur, ne vous déplaise, elle est de moi. En vain, j'ai voulu vous déduire, mon embarras. On s'est contenté de me dire « tu chanteras. » Nous avions aussi Davisard et cette présidente Dreuillet dont j'ai parlé déjà, je crois. Davisard avait la folie du dévouement. Il aimait Monsieur le duc du Maine de façon à se faire tuer pour lui, et il avait des battements de cœur perpétuels, par la conviction où il était de le voir nommé premier ministre. Il n'entrait pas un courrier, on n'apportait pas une lettre qu'il ne s'écria « Il est enfin à sa place, n'est-ce pas ?» Et rien ne le découragea de cette espérance tant que vécut le prince. À sa mort même, il n'en départit pas. Il lui avait composé une épitaphe, où il le traitait de fils de Jupiter, premier ministre de l'Olympe. Comme de raison, Davisard fut mis à la Bastille lors de la conspiration. Je ne crois pas qu'il en fût bien profondément instruit. Il avait amené à Sceaux la présidente Dreuillet, son amie, dont madame la duchesse du Maine s'était affolée, et avec raison, bien qu'elle eût plus de 70 ans. Son esprit était adorable, elle faisait des épigrammes et des chansons délicieuses. Nous soupions un soir à l'arsenal où madame du Maine avait fait bâtir un pavillon sur le bord de la rivière. Madame Dreuillet, très infirme, semblait n'avoir plus que le souffle. La princesse la pria de chanter dès le potage. Le président Hinault, plus près de la duchesse, lui dit tout bas « Mais madame, nous devons rester 5 ou 6 heures à table au moins. Si vous commencez déjà, elle ne pourra jamais aller jusqu'au bout. » « Vous avez raison, président, répliqua-t-elle, mais ne voyez-vous pas qu'il n'y a pas de temps à perdre et que cette femme peut mourir au rôti ?» Nous nous regardâmes, nous fûmes frappés de cette cruelle plaisanterie, bien qu'elle ne nous étonna pas. Nous connaissions madame la duchesse du Maine et son cœur. Nous avions aussi un abbé de Vaubrun, frère de la duchesse d'Estrée, qui ne bougeait de chez madame du Maine. J'ai fait son portrait, ainsi que c'était la mode alors. Je le retrouve et je vais le transcrire. C'était un original. L'abbé de Vaubrun a 3 coudées de hauteur du côté droit et 2,5 du côté gauche, ce qui rend sa démarche fort irrégulière. Il porte la tête haute et montre avec confiance une figure qui d'abord surprend, mais qui ne choque cependant pas autant que la bizarrerie de ses traits semble l'exiger. Ses yeux sont tout le contraire de son esprit. Ils ont plus de profondeur que de surface. Son rire marque, pour l'ordinaire, le contentement qu'il a des productions de son imagination. Il ne perd pas son temps à l'étude ni à la recherche des choses solides, qui ne font honneur que parmi le petit nombre des gens d'esprit et de mérite. Il s'occupe sérieusement de toutes les bagatelles. Il sait le premier la nouvelle du jour. C'est de lui que l'on revoit toujours le premier compliment sur les événements agréables. Personne ne tourne avec plus de galanterie une fadeur. Personne ne connaît mieux le prix de la considération qui est attachée à vivre avec les gens en place ou illustre par leur naissance. Il est très empressé pour ses amis. Il ne manque à aucun devoir envers eux. On le voit assister à leur agonie avec le même plaisir qu'il avait assisté à leur succès. Il n'a point une délicatesse gênante dans l'amitié. Il se contente de l'apparence, et il est plus flatté des marques publiques de considération que de l'estime véritable. Madame la duchesse du Maine l'a parfaitement défini en disant de lui qu'il était « le sublime du frivole ». Elle pouvait d'autant mieux le définir ainsi qu'elle avait presque autant de droit à la même définition. Ainsi, à peu de choses près, s'écoulait la vie dans cet intérieur. Je ne crois pas devoir en reparler davantage, car par la suite il n'y arriva rien de plus. Ce furent presque toujours les mêmes visages, les mêmes amusements. Je passai la plus grande partie de mon temps dans cette maison jusqu'à la mort de madame du Maine. Je noterai cependant encore un trait. On me logeait ordinairement dans le petit château, parce que j'allais et venais beaucoup, tant à Paris que chez mes différents amis dans leur campagne. Ainsi, à Montmorency chez monsieur et madame du Châtel, à Champs chez madame de la Guiche, dans beaucoup d'autres endroits encore. Une année, nous devions rester tard. J'étais enrhumée, on me proposa de me loger dans le grand château, ce qui me paraissait bien doux. Je n'avais pas à sortir par tous les temps pour venir au salon et pour dîner ou souper. J'acceptai. Mademoiselle de Launay, car, en consultant mes notes, je vois qu'elle n'était pas encore mariée dans ce temps-là, Mademoiselle de Launay vint en toute hâte m'engager à n'en rien faire. « On a beaucoup parlé de vos absences et du désagrément d'avoir un appartement souvent vide dans le grand château. On a ajouté qu'un petit rhume et une toux ne signifiaient rien, que certaines gens s'écoutaient pour le moindre bobo, sans consulter la convenance et l'agrément des autres. Si vous changez d'appartement, vous aurez une mine et des coups d'épingle, voyez. » Je n'hésitais pas. J'avais grande envie de m'en aller tout à fait. Mon amie me conjura de n'en rien faire. Pour elle, je restais. Mais je me donnais le plaisir de montrer que je m'apercevais de l'humeur en rendant la parole donnée pour la chambre nouvelle. « Ah, tant mieux !» me répondit simplement la duchesse. « J'en suis bien contente. Rien ne me contrarie comme de passer dans le corridor devant une porte fermée à clé. J'en suis triste le reste du jour. » Ce fut tout le remerciement que j'en eus. Chapitre 65. J'avais une amie dont je veux aussi parler avec quelques détails, car cette amie eut aussi sa célébrité malheureuse. La pauvre créature fit une triste fin, pour quelques moments de bonheur et d'un singulier bonheur encore. C'est de Madame de Vintimille qu'il s'agit. J'avais fait connaissance avec elle à Sceaux, ou plutôt par Madame de Noailles et Madame la Comtesse de Toulouse, Mesdemoiselles de Nesle ayant été élevées chez Madame de Noailles. Je n'ai pas parlé de Paris Duvernay et de ses frères. Les conseils et les amis de Madame de Prie d'abord, de Madame de Châteauroux ensuite. C'est une chose que tout le monde sait. On les a vus arriver de leur montagne de Savoie à la fin du règne de Louis XIV. Ils tenaient une auberge où ils furent assez heureux pour recevoir Madame la Duchesse de Bourgogne à son passage. Elle les remarqua parce qu'ils étaient de jolis enfants et les fit venir en France où ils ont fait la fortune que l'on connaît. Madame de Vintimille, la seconde fille du marquis de Nesle, était une femme de bon cœur, d'un esprit remarquable, grande et assez belle créature. Elle vivait fort bien sans qu'on eût parlé d'elle, ne visant ni au bruit ni à l'éclat. Ses sœurs étaient mariées. Bien que fille d'une des femmes les plus connues pour son extravagante conduite, leur beau nom et leur dot honnête leur trouvèrent des épouseurs. L'aînée épousa monsieur le comte de Mailly. La seconde, le marquis de Vintimille, d'une origine italienne. La troisième, le marquis de Flavacourt. La quatrième, le marquis de la Tournelle. La cinquième, le marquis, depuis duc de Lauragais. Toutes, excepté Madame de Flavacourt, devinrent les maîtresses du feu roi. Je n'ai rien à dire de plus que les autres de Madame de Mailly, de Madame de la Tournelle, devenue duchesse de Châteauroux, ni de Madame de Lauragais. Chacun sait leurs aventures, on les a racontées sur les toits. Madame de Vintimille est restée dans l'ombre, pour beaucoup de raisons, dont la première fut qu'elle est morte bien jeune, et puis il y eut dans ce qui lui arriva un mystère que beaucoup de gens avaient intérêt à cacher. Madame de Mailly, grande et noble femme, fut accusée d'une façon abominable, tandis qu'on aurait dû la plaindre. Madame de Châteauroux, traitée en héroïne, ne valait rien. Elle n'était qu'ambitieuse et elle eut tout sacrifié à cette ambition, la cause de sa perte. Dès que je vis Madame de Vintimille, elle me plut, par le grand air de bonté répandu sur son visage. Je lui plus également et nous nous liâmes d'une grande intimité. C'était au commencement de la faveur de Madame de Mailly. Madame de Vintimille allait beaucoup à la cour et Madame de Mailly l'introduisait avec elle dans les petits appartements. Madame de Mailly adorait Louis XV. non à cause de sa puissance et de sa grandeur, car elle ne voulait rien accepter de lui, et il fallut la violenter pour corriger un peu sa maudite fortune. Elle l'aimait passionnément. Elle était prête à faire tous les sacrifices possibles à cet amour. Elle l'a bien prouvé. Elle donnait à son amant tous les plaisirs et réunissait autour de lui les personnes qui lui plaisaient. Une seule se montrait véritablement son amie. C'était Madame de Vintimille. Elle lui disait tout, elle lui confiait ses moindres pensées et ne faisait rien sans la consulter. Je vais feuilleter une des pages les plus secrètes et les plus étranges du cœur humain. Une de ces impressions qui ne peuvent que se raconter et qu'on n'explique pas plus qu'on ne les analyse. Je ne sais ce que j'aurais fait à la place de Madame de Mailly et de Madame sa sœur, mais je n'aurais pas agi comme elle, assurément. Louis XV était certainement le plus bel homme et le plus séduisant qui fut dans son royaume à cette époque-là. Il réunissait les grâces de l'esprit et celles du corps. Il était bon, il était affable, il était brave, il était charmant. Madame de Mailly se mourait de peur de n'être pas aimée. Il ne l'avait point choisie, il l'avait acceptée, elle le savait. Elle n'était plus toute jeune, elle n'était pas absolument belle. Son esprit seul était du premier rang, et pour un prince de cet âge, elle tremblait que l'esprit ne fût pas la plus puissante attraction. Depuis quelque temps, sa sœur devenait songeuse. Elle semblait fuir ses confidences. Elle trouvait des prétextes pour ne pas venir à Versailles ou à Choisy, pour s'éloigner du roi surtout. Celui-ci, au contraire, la demandait sans cesse. Il se plaignait de son absence et s'en étonnait surtout. Madame de Mailly voulut en savoir la raison. Elle écrivit à sa sœur et la supplia de venir la voir, de ne pas tenir rigueur davantage, en ajoutant que, si elle le refusait, elle irait la chercher. Madame de Vintimille répondit qu'elle allait quitter Paris pour quelque temps et qu'elle priait sa sœur de ne pas se déranger, attendu qu'elle ne la trouverait plus. Madame de Mailly ne s'expliqua pas cette réponse et cette absence. Elle renvoya chez la marquise et apprit enfin qu'elle était à Navarre, chez Madame la Duchesse de Bouillon. Lorsque le roi connut ce voyage, il se mit en véritable colère. Il accusa Madame de Mailly de l'avoir laissé partir, de n'avoir pas su la garder, et de ne pas savoir comment s'y prendre pour qu'elle revînt. « Si votre majesté le veut, j'irai la chercher à Navarre, » répliqua l'excellente femme. « Elle ne me résistera peut-être pas. » « Faites cela, comtesse, allez-y bien vite, revenez plus vite encore, et nous serons charmés. J'aime à avoir près de moi les mêmes visages. Et puis c'est votre sœur, elle ne peut qu'être très chère à mon affection. » La comtesse ne se le fit pas répéter, elle partit pour Navarre. Madame de Vintimille, en l'apercevant, fondit en larmes. « Ah, ma sœur !» s'écria-t-elle. « Que venez-vous faire ici ?» Elle se promenait, solitaire, dans le parc, du côté du monument élevé à la Prie, le cheval de Monsieur de Turenne, auquel on avait donné les Invalides dans les écuries du château et les honneurs d'un mausolée après sa mort. Madame de Bouillon dit à Madame de Mailly que la pauvre femme n'avait fait que soupirer et se promener seule depuis qu'elle était là. « Mon Dieu, ma sœur, qu'avez-vous ? Pourquoi ces larmes ?» « Je suis malade, ma sœur. Je suis partie de Paris pour me sauver. J'ai fui ce que je voyais et ce qui nourrissait mon mal. Je me serais guérie, peut-être, et vous voilà, qui me rappelez tout. » « Je venais vous chercher, ma sœur. » « Me chercher, moi ? Me chercher ? Est-il possible ? Vous venez me chercher ? » « Oui, de la part du roi. » « Ne me dites pas cela ! Ne me dites pas cela ! » s'écria-t-elle en pleurant davantage. « Je ne vous comprends pas, ma sœur. Vous m'affligez beaucoup. Ne m'aimez-vous donc plus ? Je ne vous ai jamais tant aimée. Vous aurais-je offensée sans le vouloir ? Vous, oh, jamais, mon Dieu ! Est-ce que le roi... Le roi ! Le roi ! Pourrais-je me plaindre du roi ? Qu'est-ce donc, alors ? Aucun courtisan n'aurait manqué à ce qu'il vous doit, je suppose. ou bien il apprendrait à s'en repentir. Je ne suis pas vindicative. Je n'ai jamais demandé au roi de rien faire pour me soutenir. Mais vous, ma sœur, je ne souffrirai point qu'il vous fût fait aucune offense. Personne ne m'a offensée. Je suis malade, voilà tout. Vous ne voulez pas revenir? Cela ne se peut. Je ne retournerai cependant pas sans vous. Le roi ne me le pardonnerait point. Dites au roi que monsieur de Vintimille me le défend. Monsieur de Vintimille? Ah, ma sœur, monsieur de Vintimille ne s'est-il jamais occupé de ce que vous faites? Et a-t-il le pouvoir d'enchaîner votre volonté? Ma bonne, ma chère sœur, je vous en conjure, n'insistez pas, laissez-moi. Madame de Mailly était trop excellente d'abord, trop intriguée ensuite pour lui obéir. Vous avez un chagrin, ma sœur, vous me le cachez, à moi, qui vous dis toutes mes pensées. Je vous ai dit toute ma pensée aussi, ma sœur, je ne vous cache rien. Je vous en supplie, retournez à Versailles et laissez-moi. Je ne vous laisserai pas. Vous partirez. Le roi le veut. Le roi désire que vous me suiviez, et vous me suivrez. Je ne vous suivrai pas. Je ne vous reverrai plus, ni l'un ni l'autre. Du moins, jusqu'à ce que je... Jusqu'à ce que... Je n'ai rien à ajouter à mon refus, ma sœur. Allez. Ce combat dura longtemps. Madame de Mailly essaya, par tous les moyens, de convaincre sa sœur et de l'amener à faire ce qu'elle désirait. Madame de Vintimille tint bon, et la comtesse fut obligée de repartir comme elle était venue. En la voyant arriver seule, le roi manifesta la plus vive contrariété. Il l'écouta impatiemment et l'interrompit en lui disant que Madame de Vintimille viendrait, qu'il l'entendait ainsi et qu'il allait l'envoyer chercher. À ces paroles, Madame de Mailly commença d'entrevoir la vérité qu'elle avait repoussée jusque-là. Il lui fallut se rendre à l'évidence. La froideur du roi pendant les jours suivants confirma ses craintes. Elle descendit alors en elle-même et consulta son cœur. Elle se demanda ce dont elle était capable pour prouver à son amant combien son bonheur lui était cher et combien elle comptait peu le sien pour quelque chose lorsqu'il s'agissait de lui. Son cœur répondit qu'elle se sacrifierait sans hésiter et entièrement à cette joie de se dévouer, la rage des belles âmes et dont elles sont si mal récompensées. Elle passa plusieurs nuits sans dormir. Le roi ne se montrait plus guère chez elle. Il n'y paraissait que par bienséance. Sa mauvaise humeur continuait, la marquise n'arrivait pas. Madame de Mailly comprit que la résistance continuait, qu'elle seule pourrait la faire cesser peut-être. Il échappa même au roi de dire chez elle un soir « À quoi sert la toute-puissance si on ne peut obtenir ce que l'on désire le plus ?» Le lendemain, de bonne heure, elle envoya chercher le duc de Richelieu, le confident éternel des amours de son maître, le ministre de ses plaisirs, et celui de tous ses conseillers auxquels il accordait le plus de confiance. « Monsieur, lui dit-elle, vous êtes l'ami du roi, vous êtes le mien, vous ne me refuserez pas un service. » « Trop heureux de vous le rendre, madame la comtesse, trop heureux de vous prouver mon dévouement, à vous et à sa majesté. » « Répondez-moi donc franchement à une question, le voulez-vous ? » « C'est selon, madame. » Répondre franchement, on ne peut demander à un courtisan une plus grande preuve de dévouement que celle-là. La marquise sourit tristement à cette réponse. « Je suis exigeante, il est vrai. Cependant, j'ai compté sur vous. Le roi ne vous cache rien. Vous devez savoir la cause de sa tristesse. Quelle est-elle ? Dites-le-moi. » « Je l'ignore, madame. » « Vous ne l'ignorez pas, vous ne pouvez pas l'ignorer. Parlez donc. » « Madame, si le roi me l'avait confié, je ne le trahirais pas. » « Il ne m'aime plus. » « Il vous aime seulement. » « Seulement ? Non, je ne puis pas vous répéter cela. » « Je vous le demanderais à genoux, monsieur le duc, si je ne savais que vous ne le souffririez point. » « Ma foi, comtesse, vous êtes une femme d'esprit, après tout. » Et vous avez un si grand cœur que peut-être vous allez comprendre et excuser cette folie. Parlez donc, vous me faites mourir. Eh bien, le roi vous aime toujours. Pourtant, il ne vous aime pas seul. Il vous manque quelque chose lorsque madame votre sœur n'est pas avec vous. Lui n'aimerait pas madame de Vintimille sans vous, mais il vous aime moins sans madame de Vintimille. La pauvre femme devint excessivement pâle. Elle eut peine à contenir un sanglot. « Allons, dit-elle, le roi ne m'aime pas, je le savais. Cependant, il m'est cruel de l'entendre dire de nouveau. »
Je ne le voulais pas.
Oui, c'est moi qui l'ai exigé. Une question encore, et puis je vous demanderai de réfléchir. Ma sœur, sait-elle quelque chose de cela?
Sans doute, le roi lui a parlé de ce sentiment, et c'est pour cela qu'elle s'est enfuie.
Il l'a rappelé?
Oui, il lui a écrit. Elle a refusé de venir. Elle lui a répondu qu'elle n'obéirait qu'à une lettre de cachet, et il n'a pas osé la lancer encore.
Je vous remercie, monsieur le duc. Le reste me regarde maintenant. Une dernière question. Madame de Vintimille aime-t-elle le roi? Le croyez-vous?
Faut-il être franc?
Je vous le demande.
Eh bien, ma chère comtesse, si elle ne l'avait pas aimé, elle ne se serait pas sauvée si vite.
Madame de Mailly ne répondit rien. Pour ces âmes-là, il y a des blessures qui ne crient point, qui ne se plaignent point et que rien n'efface. Elle congédia le duc, fit dire à sa majesté qu'elle était malade et resta renfermée jusqu'au lendemain, sans voir absolument personne. Ce qu'elle souffrit dans cette nuit peut se comprendre, mais non se raconter. Elle se leva calme, en apparence, appela une de ses femmes, en qui elle avait confiance entière, et lui donna l'ordre de tout préparer, en secret, pour son départ.
« Mon Dieu, madame, est-ce que madame la comtesse quitte la cour ?»«
Non, mon enfant, je vais à Navarre, voir madame de Vintimille. Je n'emmène que Bourguignon. Je puis être sûre de lui. Pendant ce temps, je suis malade, entendez-vous ?»« Personne n'entrera, pas même le roi. Il faut faire bonne garde et qu'on ne s'aperçoive pas de mon absence. Prévenez Bourguignon qu'il tienne une chaise sur la route de Saint-Cyr. » Procurez-vous pour moi un costume de femme de charge ou de commerçante, que je ne puisse être connue. Je n'en demande pas davantage. » La dévouée servante ne fit aucune observation. Elle remplit fidèlement les intentions de sa maîtresse, et lorsque tout fut prêt, elle l'en avertit.
« Je te recommande, entends-tu, que personne n'entre, pas même lui, surtout lui. »
« Mais madame, si sa majesté veut forcer la porte ?»«
Il ne la forcera pas, va, il n'a pas assez d'amour pour cela. »
Elle partit sur cette parole et monta en chaise devant la pièce d'eau des Suisses, enveloppée dans une coiffe d'indienne et tout à fait méconnaissable. En arrivant à Navarre, elle descendit dans une auberge, ou plutôt un cabaret, et envoya Bourguignon au château avec une lettre. En reconnaissant l'écriture, madame de Vintimille devint tremblante. Elle faisait pitié tant elle était changée. Cette lutte la tuait.
Madame est là, elle désire voir madame la marquise, dit Bourguignon.
Elle ne s'en ira pas sans l'avoir vue. Elle est déguisée de façon à ne point se compromettre. Doit-elle venir ici ou madame la marquise veut-elle lui donner un rendez-vous dans quelque endroit écarté?
Ma sœur ici? Ma sœur ici, déguisée? Elle veut me voir, elle veut me parler, mais je ne puis pas aller à elle, je ne le dois pas. »
Bourguignon insista. Il raconta l'état épouvantable où se trouvait la comtesse, il raconta ses angoisses, ses souffrances, dont il ignorait la cause, et sa résolution très arrêtée de ne pas quitter Navarre sans avoir parlé à sa sœur.
« Eh bien, dit celle-ci, qu'elle vienne à présent, sur le champ, je suis seule. Madame de Bouillon et ses hôtes sont allés passer la soirée à Évreux chez l'évêque. Je la recevrai, nous causerons. On me sait malade, et personne ne songera à venir chez moi sans mon ordre. »
Bourguignon alla quérir sa maîtresse. Il la conduisit à Navarre et la fit entrer dans l'appartement de madame de Vintimille, où il la laissa en allant l'attendre dans l'antichambre. Lorsque les deux sœurs furent seules, elles se regardèrent avant de se parler. Elles furent frappées l'une et l'autre de l'altération de leurs traits. Madame de Mailly semblait un condamné que l'on conduit au supplice. Madame de Vintimille respirait à peine. Enfin, leur affection mutuelle reprit le dessus et elles se jetèrent en pleurant dans les bras l'une de l'autre. « Ah, ma sœur !» s'écria Madame de Mailly. « Je vous apporte mon bonheur. Ne le refusez pas. » Chapitre 66. Madame de Vintimille ne releva pas le propos. Elle resta la tête baissée et confuse. Ce fut encore à la pauvre victime de parler. « Vous ne répondez pas ? » dit-elle. « Aurez-vous donc la cruauté de me repousser ?»« Vous repoussez, ma sœur ? Ah, vous méconnaissez ma tendresse !»« Non, ma sœur, non. Mais je sais tout. »«
Vous savez tout ?»
Elle cacha sa tête dans ses mains. « Oui, tout, » répliqua l'excellente créature.
« Si vous savez tout, ma sœur, vous savez mes combats, alors. Vous savez que j'ai résisté, que je me suis enfuie, que je suis décidée à mourir plutôt que d'écouter mon cœur et le sien. »
« Non, vous ne mourrez point. Non, il ne sera pas malheureux à cause de moi. Et c'est là ce que je viens vous dire. »
« Qu'entendez-vous par ces mots, ma sœur ? Je n'ai pas d'espérance, je n'en veux pas. J'ai résisté à ses prières, à ses ordres. Je m'enfuirai plus loin encore, s'il le faut, plutôt que de vous voler sa tendresse. Pardonnez-moi un sentiment involontaire, un sentiment qui me tue, je vous le répète. Hélas, si je n'ai pas pu le vaincre, au moins je ne lui ai pas cédé. »
Madame de Mailly pleurait en silence. Elles se turent toutes deux quelques instants, puis la comtesse reprit.
« Vous ne me connaissez pas encore, ma sœur. Vous ne savez pas quel amour je porte au roi, ni tout ce que cet amour peut me faire entreprendre. Je sais combien je l'aime, ma sœur, et ce que je souffre.
Oui, mais cela n'est pas comme moi. Vous résistez, et je ne lui aurais jamais résisté en rien. Ne m'interrompez pas, et écoutez ce que je suis venue vous dire de si loin.
J'écoute, ma sœur chérie, et je suis sûre que vos paroles sortent du cœur.
Ma bonne sœur, le roi vous aime, le roi est malheureux, le roi ne peut vivre sans vous. Il faut que vous reveniez.
Mon Dieu !
Il faut que vous reveniez avec moi. Il faut qu'il soit heureux par vous et que vous soyez heureuse par lui.
Et vous ?
Moi, je serai heureuse de votre bonheur. Ne vous ai-je pas dit que je vous donnais le mien ?
Et vous vous retirerez ?
Non.
Quoi ? Vous resterez ? Vous serez témoin ?
Je le verrai, ma sœur, et il me saura peut-être gré de vous avoir amenée. Madame de Vintimille n'en croyait pas ses oreilles. J'avoue qu'à sa place, j'aurais pensé de même. Ces dévouements magnifiques sont au-dessus de ma portée. Je ne les comprends pas. Je ne saurais les imiter. Je les admire et je les trouve tellement surhumains que ce sont pour moi des utopies.
Quoi, ma sœur, quoi, est-il possible? Une telle vertu, une telle bonté? Oh, j'en suis indigne.
Non, car vous avez bien combattu. Vous avez voulu me sacrifier votre bonheur. Vous avez brisé votre cœur pour moi. Vous avez eu tous les soins que vous avez pu prendre et c'est à moi de me retirer. Vous êtes jeune, vous êtes belle, vous pouvez l'aimer longtemps. Moi, je serai votre amie à tous les deux. Je serai le témoin dévoué de votre bonheur, et je le cacherai au monde, à l'ombre de celui que j'ai perdu.
Comment vous voulez encore ?
Je veux tout ce que vous voudrez, disposez de moi, mais venez d'abord. Ensuite, il ordonnera. Madame de Vintimille se fit beaucoup prier, pour la forme, je crois. Elle avait grande envie de céder. Elle céda. Il fut convenu entre elles que l'on profiterait de l'absence de Madame de Bouillon, qu'on lui laisserait un mot pour la prévenir qu'un message pressé rappelait la marquise, et qu'on éviterait de la sorte toute explication. Les deux sœurs montèrent dans le carrosse de la marquise, et Bourguignon ramena la chaise. Grâce à son déguisement, Madame de Mailly fut prise pour une bourgeoise ou une des femmes de sa sœur.
Elles firent la route ensemble dans des épanchements infinis. Madame de Mailly en eut presque de la joie. Et à force de dévouement, elle se sentait heureuse. Elle laissa sa sœur rentrer au château devant elle et en évidence. Puis elle se cacha et retourna dans son lit. Son abnégation n'alla pas jusqu'à être témoin du transport de son amant à la première vue de sa rivale. Madame de Vintimille avait un appartement au château, à côté de celui de la comtesse. Il existait entre les deux une communication dont le roi profitait souvent pour aller de l'une chez l'autre. Elle s'y rendit directement, fit une toilette savante et se demanda comment elle s'y prendrait pour faire prévenir le roi de son arrivée. Le duc de Richelieu était tout à fait bien placé pour lui épargner cette peine. Elle lui écrivit donc, sur un petit morceau de papier sans conséquence, ces simples mots. « La marquise de Vintimille, arrivée ce matin de Navarre, désire avoir l'honneur de voir monsieur le duc de Richelieu le plus tôt possible et lui présente ses compliments. » Monsieur de Richelieu, en recevant ce billet, se hâta d'aller le porter au roi. Il comprenait de reste, et son expérience ne pouvait lui faire défaut.
« Elle est là ? » s'écria Louis XV.
« Oui, sire, dans son appartement.
Allons-y vite. »
« Elle vous attend, sire, bien que ce soit moi qu'elle demande. »«
Et madame de Mailly ?»«
Elle est malade. »«
Toujours ?»«
Oui, sire, j'ai insisté ce matin pour entrer et Bernardine m'a fermé impitoyablement la porte. »
Pauvre comtesse.
Madame de Vintimille se porte bien, sire. Nous souperons chez elle ce soir, je suppose. Le roi ne répondit pas et marcha vers cet appartement qu'il avait tant de fois regardé d'un air de colère lorsqu'il était vide. La marquise entendit du bruit, devina ses pas et mit la main sur son cœur, croyant qu'elle allait étouffer.
Ah, madame, s'écria le roi accourant très vite. « Vous vous êtes bien fait désirer. »
Elle n'eut pas la force de répondre et fit seulement une révérence.
« Vous ne partirez plus maintenant. »
Monsieur de Richelieu, entré avec Louis XV, trouva moyen de s'échapper sous un prétexte quelconque et les laissa seuls. Dans les commencements d'amour, les jours d'absence comptent triple. On fait plus de chemin par les souvenirs et les combats qu'on en aurait fait par les soins et les attentions soutenues. Il semble qu'on se doive un dédommagement. La femme, qui tant de fois a lutté contre elle-même, qui s'est refusée ce qu'elle désire passionnément, semble avoir épuisé ses forces dans ses refus imaginaires. Lorsqu'elle revoit son amant, elle lui a tenu suffisamment rigueur. Elle n'a plus de courage. Elle est vaincue d'avance. Elle cède. Autant d'impatience et de lassitude que d'amour. Lorsque le roi quitta madame de Vintimille, la pauvre madame de Mailly n'avait plus rien à donner à sa sœur. Le lendemain, les fins courtisans savaient tout. L'antichambre de la marquise fut assiégée par une foule choisie. Elle ne reçut personne. Elle restait entre son amant de la veille et le confident intime de cet amour. Le souper fut d'une gaieté folle. Pendant ce temps, la malheureuse comtesse souffrait horriblement. Laissée seule dans le fond de son appartement, elle avait attendu sa sœur et peut-être le roi toute la journée. Personne n'était venu. Tout à son bonheur, la marquise n'osa pas dire à Louis XV, dès le premier jour, à qui elle le devait. Elle n'osa pas non plus entrer chez sa généreuse rivale. Elle était honteuse d'elle-même, de ce qu'elle n'avait pas dit, de ce qu'elle avait pensé peut-être. Madame de Mailly voulut tout savoir, et surtout par Bernardine, à laquelle elle arracha les paroles comme avec des tenailles. Elle passa la journée et la nuit à pleurer.
« Je les verrai peut-être demain, se dit-elle.
Les ingrats, ils me doivent leur bonheur et ils ne m'ont pas dit qu'ils étaient heureux. » Le lendemain, elle ne les vit pas davantage. Elle comprit alors que le duc de Richelieu l'avait trompée et que le roi n'avait pas besoin d'elle pour aimer sa sœur. Son premier mouvement fut de se retirer, sans dire un mot, sans se plaindre, d'aller cacher dans quelque couvent sa douleur et son repentir. L'espérance la retint. Et puis, ce besoin impérieux, cette première nécessité de la vie pour une femme qui aime de voir son amant. Elle attendit. 3 jours entiers se passèrent, après lesquels, enfin, on lui annonça sa sœur. Madame de Vintimille, de laquelle je tiens tous ces détails, m'a souvent assuré, depuis, qu'elle avait eu 100 fois l'envie de la venir embrasser et qu'elle n'avait pas osé la voir. « J'étais honteuse de moi-même, » ajoutait-elle, « et sa générosité m'accablait. » Leur entrevue fut très touchante. Madame de Mailly, suppliée par sa sœur, promit de recevoir le roi un instant, le soir. « Il veut vous voir, vous remercier, vous exprimer toute son admiration, toute sa tendresse. » « Oh oui, c'est la reconnaissance et la pitié qui l'amène. Il me doit votre arrivée. Il me doit les instants précieux qui viennent de s'écouler. » Madame de Vintimille essaya de lui persuader que le roi venait à elle avec les mêmes sentiments qu'autrefois. « Ne seriez-vous pas jalouse alors ? » s'écria l'autre. « Et pouvez-vous me donner une plus grande preuve de mon abandon qu'en me l'envoyant vous-même ? » Madame de Mailly se trompait cependant. Le roi vint en effet le soir. Il fut tendre, il fut empressé, il fut tout ce que peut être un amant qui aime assez peu une femme pour en aimer 2 à la fois. Madame de Mailly eut la gloire de le refuser, de le repousser, et de rester fidèle à la promesse envers sa sœur. Mais elle fut bien consolée, elle fut presque heureuse, elle garda l'espoir de l'avenir. Le temps se passa ainsi. Louis XV resta entre les 2 sœurs aux yeux de toute la cour qui croyait au partage. Il n'en était rien. Madame de Vintimille le savait. Aussi souffrait-elle Madame de Mailly auprès du roi, sans jamais montrer, ni à l'une ni à l'autre, l'ombre d'un soupçon ni d'une crainte. Elle avait le caractère dominant. En devenant la maîtresse du roi, elle voulait le partage de sa puissance. Elle voulait surtout qu'il régnât par lui-même et qu'il reprît les rênes de l'État. Elle lui prêchait la gloire, l'indépendance. Elle lui souhaitait de belles pages dans l'histoire. Madame de Châteauroux ne fit plus tard qu'exécuter ce qu'elle avait médité avant elle. Le roi l'écoutait avec plaisir. Madame de Mailly ne l'avait pas accoutumée à ce langage. Étrangère à tout ce qui n'était pas son amour ou les plaisirs de son amant, elle l'entretenait dans la mollesse et la domination, non pas de parti pris, mais parce que l'amour était son unique pensée, parce qu'elle aimait Louis et non pas le monarque, parce qu'elle oubliait près de lui ce qui n'était pas lui. Après 2 mois, Madame de Vintimille devint grosse. Ce fut bien autre chose. À dater de ce moment, le roi l'adora. Il ne la quittait pas. Il ne faisait rien sans la consulter, au point d'inquiéter le vieux ministre, qui regrettait de tout son cœur Madame de Mailly, et qui eût donné tout au monde pour qu'elle reprît sa place. Je voyais assez souvent la marquise. Elle n'avait pas abandonné ses amis, et malgré sa puissance, elle m'écrivit qu'elle ne m'oubliait point. Je rencontrai plusieurs fois Louis XV chez elle. Si j'eusse encore été jeune, j'aurais aimé cet homme-là, bien que le roi me semblât petit et mesquin auprès de son aïeul. La comtesse me raconta beaucoup de choses. Elle traçait en 3 coups des portraits frappants, et pas un des courtisans n'échappait à ses satires. Elle me fit avoir mes 2 pensions. Celle sur la cassette de la reine fut demandée par elle-même à sa majesté, et cette sainte Marie Leczinska n'avait rien à refuser aux maîtresses de son mari, par esprit de pénitence. La santé de Madame de Vintimille fut très chancelante pendant sa grossesse. Les 2 derniers mois, elle ne se levait plus. J'allais assez assidûment lui faire compagnie aux heures où le roi ne pouvait être auprès d'elle et où elle ne recevait personne. Elle changeait visiblement et souffrait beaucoup. « Madame, me dit-elle un jour. « Retenez ceci, je ne me relèverai pas, et je suis à ma dernière maladie. « Quelles idées de l'autre monde, madame, à votre âge, et pour une chose aussi naturelle !» Ce que j'éprouve n'est pas naturel, au contraire. Ils ont voulu me tuer et tuer mon enfant avec moi. Ils ne réussiront qu'à moitié. Lui, au moins, il est vivant. Quant à moi, je n'ai plus longtemps à les gêner.
Qui cela, madame? Qui donc a intérêt à vous faire mourir? Vous ne causez de mal à personne, que je sache.
Qui cela? Les ennemis du roi? De sa gloire? Ceux qui veulent garder pour eux sa puissance? Ceux qui veulent être les maîtres de son royaume et le retenir en tutelle?
Le cardinal?
Je ne nomme personne, et je n'ai pas besoin de nommer. L'événement arrivera, et je ne vous demande que de vous souvenir.
Je me suis souvenu, en effet. Madame de Mailly eut pour sa sœur tous les soins d'une mère. On ne peut dire ce qu'elle fut dans cette occasion. Elle s'oublia tout à fait. Elle ne dormit ni le jour ni la nuit. Elle supplia le roi, à main jointe, de quitter la malade le moins possible. Et le roi y fut porté d'affection, d'intérêt. Il aimait infiniment madame de Vintimille, et il eût vivement désiré lui conserver la vie. Mais le roi des rois en avait décidé autrement.
Chapitre 67. Le moment de la délivrance arriva. La couche fut horrible. La malheureuse femme souffrit 3 jours et 3 nuits des douleurs inouïes. Le roi ne la quitta pour ainsi dire pas. Et madame de Mailly, établie à côté d'elle, ne permit à personne de lui rendre les offices de son amitié. Les autres sœurs parurent à peine. Elle fut enfin délivrée et mit au monde un garçon qui fut nommé le comte de Luc. Sa ressemblance avec le roi était frappante. Elle n'a été qu'en augmentant, et, parvenue à l'âge d'homme, on lui donna le surnom de Demi-Louis. Je crois qu'il vit encore. Louis XV l'a toujours aimé, de préférence même à ses enfants légitimes. Il n'a reconnu aucun de ses bâtards. L'exemple de son aïeul l'avait instruit. Mais celui-là fut traité d'une façon spéciale. Mesdames ont eu pour lui 1000 bontés. Elles ont constamment veillé à sa fortune, à laquelle, du reste, son auguste père avait largement pourvu. Le lendemain de la couche, madame de Vintimille se trouva mieux. On la crut sauvée. Elle tenait doublement à la vie et voulait oublier ses pressentiments. Elle me fit écrire par une de ses femmes et me pria de la venir voir un instant pour admirer comment elle se portait à merveille et comment ses prévisions en avaient menti. Je vins en effet. Sa lettre était datée de la veille. Je l'avais reçue le matin seulement et je fis diligence. J'allais alors assez souvent à Versailles, et je m'y étais procuré un pied-à-terre. En entrant dans l'antichambre de la marquise, je trouvai plusieurs laquais silencieux et à mine assez allongée. Je demandai de ses nouvelles. On me répondit qu'elle était fort mal et que je ne pourrais probablement pas la voir.
« Comment ? » m'écriai-je.
« Elle m'a fait écrire hier, elle allait à merveille. »
« Oui, madame. » Mais cette nuit, il y a eu une crise terrible. Il a fallu chercher tous les médecins. Ils ont déclaré qu'elle ne passerait pas la journée, à moins d'un miracle.
Cette nouvelle me frappa comme un coup de foudre.
Cette pauvre femme, si jeune, si pleine d'intelligence, si aimée et si puissante.
Je me rappelais ses pressentiments et j'en demeurais frappée.
Pourtant, je ne voulus pas renoncer au bonheur de la voir encore et j'insistais. On me dit que, si le roi était près d'elle, il ne serait pas possible de me recevoir, mais que peut-être, à cette heure, il était rentré chez lui et qu'alors on m'introduirait.
Le laquais alla s'informer et revint. Madame de Mailly me priait d'entrer un instant. Elle était seule près de la malade. Elle savait son amitié pour moi, celle que je lui portais, et croyait remplir sa volonté en ne me refusant pas, puisqu'elle m'avait appelé. Quel spectacle offrait cette chambre! Cette idole de la fortune, tombée au milieu du luxe, entourée de tout ce qui pouvait rendre sa vie agréable et heureuse. Cette mort, plus puissante que la science, plus puissante que le plus puissant roi de la terre, lui enlevait sa bien-aimée, alors qu'il aurait sacrifié ses trésors pour la conserver. Cet enfant royal, né au milieu des douleurs,
pleurant dans son berceau doré, comme le pauvre sur la paille humide. Les idées philosophiques m'arrivèrent à l'imagination. Je restai muette devant ce tableau, et je ne trouvais pas une parole par la multitude de mes pensées. Madame de Mailly s'avança au-devant de moi sans dire un mot. Elle me montra sa sœur par un geste d'une éloquence de cœur admirable. La marquise était étendue, inanimée, mourante, sans connaissance. Son âme était-elle encore là? Je ne sais. Son visage me parut d'une singulière couleur. Elle ressemblait à un marbre jaune et vert. Je fis un mouvement de surprise et de chagrin. Il n'échappa pas à la comtesse.
« Oui, me dit-elle à voix basse, ils l'ont tué. Vous le croyez, n'est-ce pas ?»«
Si cela est, madame, il faut en tirer une éclatante vengeance. »«
La venger? Et sur qui? Où trouver les coupables ?»«
Non, madame, il ne faut pas la venger. Il faut prier Dieu de nous pardonner à tous, pécheurs, et de nous rendre sa grâce. Ma pauvre sœur n'a pu recevoir aucun sacrement. »
Cet accès de dévotion ne m'étonna pas chez madame de Mailly. Les âmes tendres ont toujours un coin dans le cœur pour le bon Dieu. Il les attend lorsque les hommes les abandonnent, et il est rare qu'elles manquent à ce rendez-vous. Madame de Mailly n'y manqua pas. Je regardai longtemps ce visage si plein de vie et d'animation autrefois, et maintenant devenu une matière inerte. Je fus plutôt frappé qu'ému. Mon esprit et mes pensées étaient en jeu plus que mes sentiments. Je demeurai quelques minutes et je me retirai. Madame de Mailly fut fort honnête, autant que son affliction le lui permit. Je suis sûre qu'il ne lui vint pas une idée personnelle. La mort de sa sœur allait lui rendre le roi. Elle n'y songea même pas. Je la quittai et je retournai à Paris. Dans la journée, madame de Vintimille était morte. Le soupçon d'empoisonnement se répandit partout. Quant à moi, j'en suis convaincue, je dois le dire. Elle et madame de Châteauroux ont payé de leur vie ce dangereux bonheur d'être aimée d'un roi et de vouloir le mener à la postérité sur les ailes de la gloire, selon le style des poètes. Les dernières maîtresses de Louis XV ont fait ce qu'elles ont voulu en France, parce qu'elles n'avaient pas de rivaux. Madame de Pompadour, surtout. Car pour la pauvre du Barry, elle ne demandait pas mieux que de ne pas se mêler des affaires de l'État. Je l'ai rencontrée une fois chez le duc d'Aiguillon, depuis la mort de Louis XV. Elle nous a fait une confession bien drôle et bien amusante.
« Mon Dieu, madame, dit-elle, demandez au cher duc s'il ne fallait pas me pousser pour que je m'occupasse des ministres et des parlements. Je ne songeais qu'à m'amuser. » À avoir de belles robes, des joyaux et des plumes. Ce n'était pas mon métier, la politique. Et ma plus grande joie était lorsque le roi fermait la porte et défendait qu'on nous ennuyât.
Est-il vrai, madame, que vous l'appeliez la France?
À vous, madame, qui êtes une femme d'esprit, je puis tout avouer, vous le comprendrez.
Oui, cela est vrai, et cela l'amusait beaucoup. Quand je jurais, il était ravi. Il me répétait toute la journée que les grandes dames et les révérences l'ennuyaient et qu'il mourrait de chagrin s'il ne m'avait pas. Il avait aussi bien de l'esprit, Louis XV, allez. J'ai souvent regretté, et lui aussi, que les gens d'esprit de son royaume ne pussent pas l'entendre et le connaître. Tout eût marché différemment. Elle avait peut-être raison.